34. Les sentiments moraux et les concepts moraux. Il est évident que les sentiments moraux se transmettent par le fait que les enfants remarquent chez les adultes des prédilections violentes et de fortes antipathies à l'égard de certaines actions, et que ces enfants, étant des singes de naissance, imitent les prédilections et les antipathies. Plus tard, au cours de leur existence, alors qu'ils sont pleins de ces sentiments bien appris et bien exercés, ils considèrent un examen tardif, une espèce d'exposé des motifs qui justifierait ses prédilections et ses antipathies comme affaire de convenance. Mais cet exposé des motifs n'a rien à voir chez eux, ni avec l'origine, ni avec le degré des sentiments. On se contente de se mettre en règle avec la convenance qui veut qu'un être raisonnable connaisse les arguments de son pour et de son contre, des arguments qu'il puisse indiquer et qui soient acceptables. En ce sens, l'histoire des sentiments moraux est toute différente de l'histoire des concepts moraux. Les premiers sont puissants avant l'action, les seconds surtout après l'action, en face de la nécessité de s'expliquer à leur sujet. 35. Les sentiments et l'origine qu'ils tirent des jugements. Fie-toi à ton sentiment. Mais les sentiments ne sont rien de définitif ni d'original. Derrière les sentiments, il y a les jugements et les appréciations qui nous sont transmis sous forme de sentiments. Prédilection, antipathie. L'inspiration qui découle d'un sentiment est petite fille d'un jugement, souvent d'un jugement erroné. Et en tous les cas, pas d'un jugement qui te soit personnel. C'est obéir plus à son grand-père, à sa grand-mère et aux grands-parents de ceux-ci qu'aux dieux qui sont en nous, notre raison et notre expérience. 36. Une folie de la piété pleine d'arrière-pensée. Comment ? Les inventeurs des antiques cultures, les premiers constructeurs d'instruments et de cordeaux, de chariots, de canaux et de maisons, les premiers observateurs de la conformité des lois du système céleste et de la table de multiplication, seraient différents des inventeurs et des observateurs de notre temps et supérieurs à ceux-ci? Les premiers pas en avant auraient une valeur que n'égaleraient pas tous nos voyages, toutes nos navigations circulaires dans le domaine des découvertes? Ainsi parle la voix du préjugé. On argumente ainsi pour rabaisser l'importance de l'esprit actuel. Et pourtant, il est évident qu'autrefois le hasard fut le plus grand inventeur et le plus grand observateur, le bienveillant inspirateur de cette époque ingénieuse, et que, pour les inventions les plus insignifiantes que l'on fait maintenant, on use plus d'esprit, plus d'énergie et d'imagination scientifique qu'il n'en existait autrefois pendant de longs espaces de temps. 37. Fausse conclusion que l'on tire de l'utilité. Lorsque l'on a démontré la plus haute utilité d'une chose, on n'a pas encore fait un pas pour expliquer l'origine de cette chose. Ce qui veut dire que l'on ne peut jamais expliquer, par l'utilité, la nécessité de l'existence. Mais c'est précisément le jugement contraire qui a dominé jusqu'à présent, et jusque dans le domaine de la science la plus sévère. Les astronomes ne sont-ils pas allés jusqu'à prétendre que l'utilité, supposée, dans l'économie des satellites, remplacer d'une autre façon la lumière affaiblie par une autre grande distance du Soleil, pour que les habitants des astres ne manquassent pas de lumière, était le but final de cette économie et en expliquer l'origine? On se souviendra aussi du raisonnement de Christophe Colomb. La Terre est faite pour l'homme, donc, s'il y a des contrées, il faut qu'elle soit habitée. Est-il possible que le Soleil répande ses rayons sur le néant et que la veille nocturne des étoiles soit gaspillée pour des mers sans voix et des régions inhabitées?